être artiste, c'est vraiment mon quotidien, c'est mon oxygène, c'est ma manière de vivre, c'est aussi ma manière d'être libre. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a sauvée. C'est l'art, c'est la peinture, c'est mon rapport à ce langage qui a fait que j'ai pu survivre au drame que j'ai vécu dans ma vie.
Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? Nazanin Pouyandeh est une artiste iranienne. Elle a fui le régime politique de son pays à l'âge de 18 ans, après l'assassinat de son père il y a 20 ans. Depuis, elle est installée en France puisqu'elle a bénéficié d'une bourse qui lui a permis de rentrer à l'École des Beaux-Arts de Paris. Nazanin Pouyandeh est peintre. Dans son atelier, elle invite ses proches à poser pour elle dans des compositions très construites. Elle élabore une peinture érudite, truffée de multiples références culturelles qu'elle emprunte à différentes civilisations et qu'elle réunit dans une sorte de collage multi-référencé. Elle met en scène une humanité largement féminine face à la complexité du monde dans des compositions qui lui sont dictées par son imaginaire foisonnant. Aujourd'hui, elle nous parle de son métier de peintre et elle revient également sur la situation des femmes en Iran et les événements de violence actuels. Nous sommes dans ton atelier, qui est également ton lieu de vie.
Oui.
Donc, j'imagine que c'est un lieu qui est très chargé d'affectif pour toi. Comment se passe ton travail de création et de mise en forme, puisque le résultat, ce sont des peintures qui sont très colorées, qui évoquent beaucoup des choses comme une mythologie qui est très personnelle. Et donc, comment est-ce que tu construis ces tableaux ?
Pourquoi aujourd'hui l'atelier est dans la maison, c'est pendant très longtemps ma maison était à Pantin, mon atelier était à Gentilly, j'avais 1h15 aller le matin, 1h15 aller le retour, et c'était très fatigant, c'était pendant une dizaine d'années, et quand on a eu l'opportunité d'avoir cet endroit, pour moi la première chose c'était j'ai envie de me lever et peindre directement. J'ai plus envie de prendre des transports en commun et j'ai envie d'être dans mon tableau directement. Alors comment je procède exactement pour peindre chaque toile, c'est que j'ai comme une image flash qui me vient à l'esprit, qui peut venir souvent de quelque part, qui peut être influencée par quelque chose que j'ai vu, que ça soit une image de film, une toile ancienne, ou un récit qu'on me raconte. Et une chose qui est en fait qui m'inspire énormément, qui est forte pour moi, et je me pose pas forcément la question, je me dis pas pourquoi j'ai envie de le peindre, j'ai juste une envie très forte de peindre une image en particulier. Après, je réunis les éléments qui font que je puisse peindre cette image-là. Les éléments, c'est toujours un rapport avec le réel et avec les modèles. Et donc, il y a une partie très, très humaine dans chaque toile. Je fais appel souvent à des gens que je connais, dont leur physique me raconte quelque chose ou dont leur vie me raconte quelque chose. Je leur demande de venir souvent à l'atelier. Ils posent pour moi. Et la pose, elle est vraiment très prédéfini, puisque j'ai eu comme une sorte de flash avant cette séance photo. Et quand les gens arrivent, souvent ça pourrait ressembler à des coulisses d'un film expérimental, parce qu'il y a des costumes, un peu de maquillage, des masques, des accessoires. La pose, elle est très précise, et les gens posent, et ça dure très peu de temps, c'est plutôt la préparation qui prend plus de temps. La pose, c'est le temps de prendre quelques photos, donc quelques secondes. Par contre, cette séance photo, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que si je rate la séance photo, je rate la toile. Donc, ça demande énormément de concentration pour moi. C'est aussi la partie qui est la plus humaine, parce que moi, je considère toujours que j'ai énormément de chance. Les gens posent pour moi toujours avec grand plaisir. Ils se donnent entièrement, ils se mettent souvent nus aussi, donc ils partagent quelque chose d'eux qui est intime, qui est très précieux, qui est gracieux, et aussi, je dirais, il y a beaucoup d'amour dedans, parce qu'ils font ça pour l'amour de l'art. Et c'est complètement gratuit, et donc là ça me met aussi beaucoup de pression et de responsabilité, parce que je me sens responsable de rendre cette grâce qui m'a été donnée dans mon œuvre. Donc c'est aussi une exigence que j'ai par rapport à comment je représente mes personnages, puisque c'est des vrais humains qui m'ont donné une partie d'eux-mêmes. Et donc, après, une fois qu'on a fait la pose, en général, donc, la pose est précise, etc. Le décor, j'ai souvent une idée vague, mais cela arrive au fur et à mesure du processus de la toile. Je commence toujours par l'humain, très précisément, parce que aussi, de façon symbolique, c'est un travail qui est sur l'humain. Et ses instincts, et ses envies, et comment il gère son quotidien. Et donc, je commence aussi par l'être humain sur ma toile. Et après, le décor, j'ai une idée vague, mais ça arrive de manière un peu improvisée, avec des associations d'idées. Donc, un élément ramène un autre, et c'est aussi des choix esthétiques. Ça veut dire, au fur et à mesure qu'une toile avance, j'ai des indications de comment je peux avancer le décor et l'univers des personnages.
Mmh. Donc, on vient de rentrer dans le processus même de tes images et de ton propre langage plastique. J'aimerais bien qu'on revienne tout à fait au début, comment tu es arrivé à la peinture. Et d'abord, si tu peux nous raconter les drames que tu as eus dans ta vie, parce que c'est ça qui a jalonné aussi ta carrière. Et donc, tu viens d'Iran et tu as évidemment des choses très fortes à nous raconter sur ce départ.
Je suis née en 81 à Téhéran, dans un climat déjà très tendu. C'était les premières années après l'arrivée de la République islamique. Mes parents, c'était des jeunes Iraniens intellectuels, complètement opposants déjà à l'époque du Shah au Shah. Ma mère a fait un an de prison politique sous le Shah. Elle avait, je sais pas, 20 ans. Et juste parce que elle avait des bouquins. À l'époque, c'était dans les années 70. Toute la jeunesse du monde faisait partie des mouvements d'extrême, ce qu'on appelle extrême gauche. Mais enfin, c'était plutôt des mouvements utopiques. Tout le monde lisait Marx, etc. Et puis c'était l'époque où on était déconnecté un peu aussi de ce qui se passait en Russie. Le marxisme, on le reliait pas forcément à ce qui se passait en Chine ou en Russie. C'était une utopie. En Iran, il suffisait d'avoir un bouquin de Marx dans son sac, même sous le Shah, pour aller en prison. Après, on idéalise beaucoup l'époque du chat, parce que après ce qui s'est passé, c'est encore tellement pire, mais c'était déjà une forme de dictature. Et donc, mes parents, en fait, dans les années 70, fin des années 70, ils se sont retrouvés à Paris. Ils faisaient tous les deux partie des mouvements d'opposition. À l'annonce des soulèvements en Iran contre le chat, ils reviennent en Iran pour participer à la révolution, parce qu'ils étaient contre le chat. Malheureusement, la révolution tourne très mal. Les islamistes arrivent au pouvoir. Et donc, le calvaire pour mes parents commence déjà, alors qu'ils étaient très jeune. Mon père, même il commence une vie plutôt clandestine parce qu'il avait été repéré. Il avait été repéré comme quoi? Juste parce que parmi les différents déménagements qu'ils faisaient mes parents, ils avaient beaucoup de livres. Donc avoir beaucoup de livres, c'était suspect. Et donc même il change de nom, il change de look. Et moi, je suis née à cette époque-là. Quand mon père, il dormait même pas à la maison le soir, il dormait dans une imprimerie le soir, il se cachait.
Et, quel métier faisait ton père?
Il était traducteur. Il était traducteur de la langue française et il était très jeune. Hein, donc à l'époque, il avait 28 ans, je pense, 27, 28 ans. Et c'est aussi le moment où la guerre Iran-Irak éclate. Donc moi, je suis née parmi tous ces conflits. Et bon...
On t'a imposé, toi, toute petite fille, à porter le voile?
Bien sûr, à partir du premier jour où j'allais à l'école, donc à partir de mes 6 ans et demi. Et même si je connaissais que ça, je le détestais, je savais que c'était quelque chose d'obligatoire et que je ne l'aimais pas. C'était sombre, c'était noir, ça sentait pas bon. Et je ressemblais plus à une petite fille, je ressemblais à un bout de petit sac où on voit juste un visage qui sort. Et je me souviens que très vite, quelques mois après avoir mis le foulard, j'ai développé un eczéma sur le crâne où j'ai commencé à perdre mes cheveux. Et voilà, c'était juste pas humain. La guerre qui continuait. Moi, j'ai très peu de bons souvenirs de l'Iran. J'ai des copines qui avaient des vies plus apaisées. Parce qu'ils n'avaient pas forcément des parents opposants au régime. Mais c'était facile pour personne. De toute façon, parce qu'il y avait la guerre, il y avait un manque de liberté totale. Bon, les années passent, mon père finit la vie clandestine, il commence à traduire les bouquins et ses livres sont publiés à son propre nom. Par contre, mes parents, ma mère a pu supporter cette vie tellement difficile. Mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Ils se sont séparés, ils habitaient plus ensemble. Des années bien plus tard, sous la présidence de Khatami, mon père a cru qu'il y avait un peu plus de liberté, etc. Il faisait partie, en fait, des chefs de la communauté des écrivains. Ils étaient plusieurs, je sais plus, ils étaient 7-8. Très vite, en fait, ils sont appelés, menacés par le service de renseignement pour qu'ils arrêtent leurs activités, parce que l'une des activités principales de cette communauté, c'était la lutte contre la censure. Et mon père donnait des interviews où il disait ouvertement qu'il était contre ça. Il était contre le fait qu'il fallait, en Iran, il faut montrer un bouquin avant qu'il soit publié au ministère de la Culture, pour éventuellement enlever des parties qui vont pas, etc. Donc il dit tout ça et bon, en 98 en fait il y a eu un espèce de mouvement une partie du service secret iranien a commencé à liquider des intellectuels. Et voilà, et mon père, un jour, il a été kidnappé, il a été étranglé, on a découvert son corps plusieurs jours après. Et puisque c'était le traducteur de la langue française, il y a eu des articles même dans Le Monde, mais de toute façon, son mouvement d'assassinat a fait beaucoup de bruit, tellement qu'ils ont dû arrêter les assassinats et même dire... ils ont fait un espèce de mascarade comme ils font toujours, et ils mentent, ils disent ah c'était une partie du service secret qui ont fait ça de leur plein gré, ils ont fait un espèce de procès, ils ont mis 3 personnes comme ça en prison qui ont libéré par la suite. Et moi j'ai quitté l'Iran un an après la mort de mon père, parce que j'avais 17 ans quand il est mort, il a fallu attendre ma majorité. Mmh. Et la France m'a accordé une bourse, et, parce que mon père travaillait avec des textes en français, et il y avait une condition pour cette bourse, pour qu'elle soit prolongée, c'était une bourse d'apprentissage de français pendant un an, parce que même si mon père parlait français, on parlait pas français à la maison. Et cette bourse serait prolongée que si je suis acceptée dans un établissement prestigieux. Et alors moi, à l'époque, je faisais de la musique classique aussi, je jouais du violon. Mais mon amour vraiment plus entier, c'était les arts plastiques. Donc je fais le concours du conservatoire, je le rate, je fais le concours des beaux-arts, je le réussis. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et en fait, mon dossier des beaux-arts, j'avais fait des collages avec des photos de magazines, et je me souviens, je me dis, c'était assez infantile, hein, c'était assez maladroit, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, je parlais à peine français, et il y avait un collage en particulier, quand j'arrive pendant l'examen oral, et il y avait beaucoup de gens, je me souviens, c'était hyper impressionnant, il y avait un collage où il y avait beaucoup de sourires de femmes déchirées, et à gauche, j'avais dessiné une corde de pendu. Et je me souviens, les profs m'ont interrogé, m'ont dit « qu'est-ce que tu as voulu exprimer avec ça ?» Et là, je les regarde, et avec mon français qui n'était pas très éloquent à l'époque, je leur dis « vous ne savez pas ce que c'est la peur de ne plus rentrer chez soi quand vous quittez votre domicile le matin. » Et je pense que c'est grâce à cette phrase qu'ils m'ont prise. Parce qu'ils ont dit « ok, c'est peut-être pas fou ce qu'elle fait à son âge, mais elle a des choses à raconter. »
Ben oui, certainement.
Voilà. Et après, avec mes collages, je suis rentrée dans l'atelier de Pat Andrea, et Pat aussi me dit toujours, il me dit « Ok, tu faisais ce que tu faisais, mais j'ai senti avec ton regard, tu avais des choses à raconter. » Et Pat, il m'a conseillé de transformer mes collages en peinture. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une notion de collage et de choses juxtaposées dans ma peinture. J'ai gardé ça. En fait, ça a été comme un espèce d'amour, le collage. Et aussi, ce qui m'a beaucoup appris, le collage, et ça constituait aussi ma personnalité, c'est des choses qui viennent un peu de partout et qui deviennent autre chose. Et c'est un peu moi. Moi, je viens un peu de partout. J'ai beaucoup aussi voyagé. Je suis allée en Afrique, en Chine, en Inde, au Tibet. Et à chaque voyage, ma personnalité, elle a changé, parce que je suis quelqu'un de très réceptif aux autres. Et les autres me changent. Et ça change aussi mon regard sur le monde. Et le collage, c'est un peu issu de ça. Et comment je peins, et des éléments qui viennent un peu de partout, qui se juxtaposent.
Tu intègres toutes sortes d'éléments de culture variées, et des objets aussi très symboliques.
Oui.
Et en effet, tu racontes des histoires, mais en fait, tu laisses le spectateur inventer sa propre histoire.
Oui, tout à fait, parce que pour moi, c'est des histoires ouvertes, un peu comme des scènes de rêve, qui racontent pas une histoire de façon rationnelle, mais qui racontent une histoire de son propre essence, avec son propre symbolique. Et en fait, chaque spectateur peut faire des espèces d'associations d'idées, un symbole qui vient de quelque part, et c'est des scènes ouvertes, c'est pas des histoires narratives rationnelles, voilà, c'est des images mentales.
Et est-ce que, donc, tu as bifurqué, on a compris, de la musique vers la peinture, et à travers le collage d'abord. Et donc, est-ce que dès le début, tu t'es senti artiste, ou il a fallu attendre une certaine légitimité, ou est-ce que c'est justement l'enseignement à l'École des Beaux-Arts qui t'a permis de te sentir déjà impliqué dans ta future vie et carrière, parce que tout à l'heure tu disais que être artiste, c'est ton quotidien.
Ben, en fait, tout de suite, j'ai senti que j'avais une mission et j'avais des choses à dire, et il fallait que je le dise. Et aussi comme une forme de responsabilité. Donc, je ne me suis pas dit « je veux devenir peintre », etc. J'ai dit « c'est ça que je dois faire, c'est ça que je sais faire, donc je vais apprendre à comment le faire, puisque c'est ma voie. » C'était très clair pour moi que ça serait ma voie, parce que c'était aussi ma manière de pouvoir passer des heures et être bien, tout simplement, et pouvoir créer quelque chose, pouvoir m'exprimer, pouvoir dire quelque chose aux autres avec mes propres moyens. Donc, alors, il se trouve que ça s'appelle artiste, mais c'était pas, moi, je mettais pas un mot en particulier sur cette manière de vie que j'ai fait, en fait, tout de suite, quand j'ai commencé à vivre seule à mes 18 ans. C'était tout de suite ça. C'était préparer le concours des Beaux-Arts. Je me souviens, j'avais une chambre dans un foyer, j'avais pas de place. Du coup, ce que j'appelle les tontons iraniens, c'était des opposants au régime qui ont entendu parler de moi et qui savaient qui j'étais et tout ça, qui m'ont beaucoup aidée. Et donc, l'un de mes tontons, je pouvais aller chez lui tous les jours. Il avait un studio libre, donc je préparais mon concours là-bas et je passais des heures dans ce petit studio à faire mes collages et des petits peinture, etc. Donc ça a été très naturel. C'était je suis devenue adulte tout de suite avec l'art. Oui. Donc voilà.
Alors tu parlais de mission, tu parlais aussi d'engagement et de responsabilité, et puis tu parles aussi de tes tontons iraniens. Donc actuellement, avec les événements qui se passent en Iran, en tant que femme artiste iranienne à Paris, est-ce que tu te sens une responsabilité, et est-ce que tu es toujours en contact avec des Iraniens en Iran, ou en tout cas beaucoup en exil ou partout dans le monde?
En fait, il faut dire que pendant toutes ces années, mes meilleures amies, surtout femmes, c'est mes copines iraniennes, beaucoup que j'ai connues en Iran et qui se sont trouvées un peu par hasard à Paris. Il y en a beaucoup qui sont exilées maintenant, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui quittent aussi l'Iran. Si on veut vivre un tout petit peu librement, l'Iran ne le permet pas, surtout si on appartient au monde de la pensée et de la création. Il y a tellement de contraintes qu'il faut renoncer à beaucoup de choses, et, ou bien il faut être un militant acharné comme mon père et y mettre sa vie, ce qui n'est pas le courage de tout le monde ni la destinée de tout le monde. Et, donc les Iraniens m'ont jamais quitté. Moi, je disais toujours, j'ai mon Iran à moi avec moi. L'Iran tel que je l'ai connu m'a jamais manqué. Jamais, parce que pour moi c'est vraiment sombre et c'est une succession de mauvais souvenirs. Par contre, les bonnes choses de l'Iran, je l'ai toujours eu pendant les 23 ans où je suis ici. Ça veut dire mes amis, la langue, les tapis, la cuisine, etc. Et il faut dire que pendant toutes ces années, jusqu'à ces derniers soulèvements, j'étais très déçue par rapport à l'Iran. J'avais plus d'espoir, parce que pour moi, un régime terroriste comme ça, on peut pas le renverser. Ça tue tout le monde, ça tue l'opposition, ça tue la création, ça tue la pensée. Et j'avais renoncé d'y croire, et j'avais même renoncé de prendre des nouvelles politiques de l'Iran, parce que je voyais pas d'issue. Je voyais vraiment pas d'issue. Et je me consacrais entièrement à mon art, qui est aussi un gros engagement. Et il y a eu quand même un vrai changement avec les derniers soulèvements qui sont arrivés. Finalement, la naissance de ces soulèvements, ça a été par les femmes. Et ça a créé quelque chose, pas seulement en moi, mais chez beaucoup d'Iraniens. On avait presque honte de l'Iran. Et là, je dirais, avec ce qui se passe, ça nous redonne un peu de dignité et de fierté de dire non, mais c'est pas des moutons, les Iraniens, c'est un peuple qui peut avoir envie d'autre chose, qui peut avoir envie de la liberté. En tout cas, ils le ressentent. Et c'est pas juste, ils baissent pas juste la tête et ils font pas juste ce qu'on leur donne comme ordre de faire. Donc ça m'a donné vraiment l'espoir aussi que ça vienne des jeunes et des femmes. Pourquoi? Parce que déjà les femmes c'est la moitié de la population, donc c'est pas une minorité. Et les jeunes, pourquoi? Parce que c'est l'avenir. Et ces jeunes qui se font tuer aujourd'hui, ils vont pas pardonner. Ils vont devenir adultes, ils vont faire des enfants. Ça veut dire même si aujourd'hui le régime ne se renverse pas parce que c'est des salopards qui sont pas prêts à partir, à lâcher. Et la répression chez eux, c'est la moindre des choses. Ils arrêtent pas, en ce moment, ils arrêtent pas d'emprisonner des gens, de les torturer, de tuer vraiment les enfants, d'arrêter les directeurs des écoles dans lesquelles il y a des émeutes, mettre la pression, mentir. Donc même si aujourd'hui, à nouveau, on se dit, bon, il n'y aura pas de suite tout de suite. On commence à dire, c'est pas grave parce que ça va plus s'arrêter. L'opposition est là. Et d'ici 10 ans, voilà, tous ces jeunes, tous ces lycéennes qui enlèvent leur voile dans les lycées, elles vont devenir mères. Elles ne vont pas pardonner que leurs copines d'enfance ont été tuées. Donc, on reprend confiance petit à petit, on reprend l'espoir et c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Et il faut dire que les médias, les réseaux sociaux, on les critique énormément, mais ils ont beaucoup de choses positives parce que ils peuvent vraiment aider à un accès et à la liberté. C'est plus positif que négatif, les réseaux sociaux. Et la mondialisation, si c'est dans le sens de la liberté et la démocratie, dans ce cas, c'est une bonne chose.
Oui, parce que ça fait circuler davantage toutes ces images qu'on n'aurait jamais eues par les médias classiques.
Mais dans le sens inverse aussi, ça donne une image aux jeunes filles en Iran. Moi, me souviens, nous, on vivait comme il fallait faire et puis on n'avait pas de repères. Là, une jeune fille de 15 ans en Iran, elle voit comment une jeune fille de son âge vit en Occident et dit « Moi, mais je veux la même chose. C'est injuste. Pourquoi ce que je vis, c'est anachronique, c'est archaïque, j'en ai pas envie. Et tant pis, je vais dans la rue, je l'enlève parce que mon avenir est plus important que cette répression qu'on m'impose. » Donc, c'est dans les deux sens. Aujourd'hui, l'Occident est témoin de ce qui se passe en Iran. Et l'Iran, c'est grâce aux réseaux sociaux qui peuvent dire « on existe », le peuple peut dire « on veut de la liberté, on ne peut plus supporter cette chose, enfin ce régime qui ressemble beaucoup aux talibans ». Juste, je dis, ils ont un autre look plus moderne, ils ont des t-shirts, des pantalons, mais c'est la même chose. C'est le même archaïsme que Al-Qaïda et le taliban. Et ils sont au pouvoir en Iran, un grand pays de 90 millions. Et un jour, ça va quand même basculer. C'est plus possible. Aujourd'hui, ils pensent toujours qu'avec leur répression primaire, ils vont réussir. Et ils vont peut-être réussir à calmer quelques manifestations et quelques manifestants. Mais ils ne peuvent pas tuer la moitié de la population. Voilà.
Et est-ce que tu penses que c'est de ta responsabilité d'artiste femme iranienne à Paris de continuer cette lutte sous une autre forme ?
Ben, moi, je considère que j'ai toujours peint la liberté, et puisque je suis une femme, j'ai toujours peint la liberté des êtres humains, mais je suis une femme, donc mon ressenti par rapport au monde, c'est le ressenti d'une femme, avec mes émotions, ma sensibilité, mon caractère, mes sentiments, donc... La femme et sa liberté et ma liberté a toujours été au cœur de mon travail, c'est même clair. avant ces derniers soulèvements. C'est Donc sûr. Moi, je me sens plutôt encouragée dans mon travail, puisque de dire non, je vais faire désormais, je vais faire ainsi ou autrement, je vais juste continuer comme j'ai toujours peint, mais juste je me sens encore plus en confiance et je trouve plus que ça soit quelque chose de marginal, disons ce que je représente, puisque c'est la voix de beaucoup de femmes.
Il y a d'ailleurs énormément de femmes dans ton œuvre, même quasiment une grande majorité. Enfin, à la limite, on pourrait dire l'inverse, il y a très peu d'hommes dans ta peinture. Et donc, en effet, c'est cette liberté de la femme que tu chantes et que tu montres et que tu mets en avant en permanence.
Mais c'est aussi une manière de me mettre à nu, moi, en tant que femme et en tant qu'être humain. Et comme je dis, moi, je ne crois pas, par contre, à la division des genres et des sexes. Même je ne crois pas... aux stéréotypes d'hétérosexuel, bisexuel, homosexuel. Je pense qu'on est des êtres de plus en plus libres, même de plus en plus nomades, et même au niveau identitaire et culturel, de plus en plus ouverts. Bon, cela peut renverser aussi l'intégrisme d'un autre sens, hein, parce que justement, on peut en prendre peur. Et aussi le fascisme, parce que les frontières sont de plus en plus ouvertes, parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des éclatements de frontières, parce qu'il y a des mouvements de population, et on ne peut pas les arrêter. Du coup, je pense qu'il faut juste accueillir cette chose, plutôt que de le pousser. On va de toute manière vers un monde de plus en plus libre. Alors, est-ce que... Par contre, moi, je ne pense pas que, puisque j'ai peint... surtout des femmes, je les divise pas avec les hommes, c'est juste mon regard personnel. Je pense pas que je peins moins les hommes parce qu'ils m'intéressent pas. C'est que moi j'ai tellement de choses à dire en tant que femme et sur moi et sur mes amis et sur les femmes qui m'ont toujours marquée. Que bon, il se trouve que ma peinture est nourrie par les femmes. Mais par contre, ça part de l'humain, de façon plus générale. C'est pour ça aussi qu'il y a des hommes qui apparaissent de temps en temps dans mon travail. Voilà.
Et dans ton parcours d'artiste, est-ce qu'à un moment donné, il y a une œuvre qui t'a énormément marqué et qui a fait basculer peut-être quelque chose dans ton envie d'être artiste ou dans ta façon de procéder ou de peindre?
Une œuvre à moi non. ou non?
Une œuvre que tu aurais pu voir, je ne sais pas, au Louvre en arrivant à Paris ou...
Ben, en fait, moi, je pense que je suis quelqu'un de profondément visuel. Même, je dis toujours ça, je dis mes premières peintures aux Beaux-Arts, c'était des grands portraits à l'endroit et à l'envers sur du papier, parce que j'avais pas assez d'argent pour acheter des grandes toiles. Et je me suis rendu compte plus tard que ces grands portraits s'étaient influencés inconsciemment par les grands portraits de propagande que j'avais vus en Iran, les fresques. Je suis quelqu'un qui est très impacté par la mémoire visuelle. Et donc, en arrivant en France, c'est pas une chose qui m'a nourrie, c'est justement l'éclatement d'images. Et parce que je venais d'un pays fermé, l'internet n'existait pas, l'accès aux images était très réduit, limité, même dans des magazines, même des revues. Et là, j'arrive en France, il y a des panneaux publicitaires partout, il y a des musées, il y a des films. Donc, je peux pas dire, il y a une œuvre qui m'a nourrie, mais je peux dire que en arrivant en France, c'est l'océan d'images que j'ai découvert qui m'a donné envie de m'approprier tout cet océan et dire je suis aussi une créatrice d'images. Voilà.
Donc c'est ce choc visuel. Et alors quelles sont actuellement tes aspirations pour les prochaines œuvres?
Bon, je fais beaucoup référence les dernières années à la peinture ancienne, à la Renaissance. Et je pense que le lien avec les peintres de la Renaissance, c'est un lien très intime parce que c'était à l'époque aussi où ils essayaient d'être réalistes et en même temps, ils avaient beaucoup d'imagination, ils inventaient un langage qui est à moitié réaliste, à moitié symbolique et fantastique. Et finalement, mon langage, il est comme ça. Donc, pour moi, c'est une très grande source d'inspiration. Après, je me suis beaucoup inspirée des œuvres africaines les dernières années, parce que c'était lié aussi au grand voyage que j'ai fait au Bénin. Et j'étais en résidence d'artiste et en plus je suis arrivée au moment des cérémonies annuelles vaudou. Donc là, ma tête, elle est vraiment partie ailleurs. Et je pense qu'en ce moment, voilà, je dirais plutôt c'est la Renaissance. Et puis je suis très ouverte visuellement, donc j'attends de voir qu'est-ce qui va m'inspirer. Je peux pas, je décide jamais vraiment à l'avance. Voilà, par exemple, pour Lune d'étoiles, je t'avais dit peut-être que je vais faire, si j'ai le temps, pour Béthune. Il y a des images des footballeuses. Parce que en fait, je trouvais absolument sublime quand pendant les matchs de foot de footballeuses, les goals, comment elles s'embrassent les filles, et c'est différent des hommes, c'est une autre émotion, et la victoire féminine, comment elle se fête en fait, comment on la célèbre. C'est donc je peux te dire, ça peut être n'importe quelle image sans hiérarchie. Ça peut être une image d'art, comme ça peut être voilà une image que je vois dans un film ou la télé.
Et alors pour conclure, quel serait ton désir, ton rêve d'exposition?
Mon rêve d'exposition, tu veux dire pour un lieu en particulier ou
comment tu envisagerais
une exposition où ton travail pourrait être présenté peut-être différemment ou en effet ça peut être un lieu auquel tu penses?
Ben en fait mon rêve, puisque je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour produire, serait peut-être avoir 5 années à me consacrer à une expo où j'aurais soit des très très grands formats, soit des grandes fresques où il y aurait vraiment comme l'histoire des humains. Voilà, je pense que je rêve d'avoir ce temps-là où je peux me consacrer à un énorme projet de grand format avec plein d'éléments, plein d'histoires, comme un peu des grandes fresques de la Renaissance.
Merci beaucoup Nazanine Pouyandet.
Merci beaucoup Isabelle.
Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge, le mercredi et le samedi à 14h la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.